présence est notre seul trésor. Que ces paroles ne soient pas juste des paroles d'un chant, mais que ce soit une réelle vérité dans nos cœurs, Seigneur. Parce que c'est dans ta présence que se trouve la délivrance, la puissance. C'est dans ta présence, Seigneur, que tu nous permets d'expérimenter ô combien tu nous aimes. Je te remercie pour ta parole. Seigneur, que chaque frère et sœur qui est venu aujourd'hui, chaque personne dans ce lieu et derrière leur écran, puisse recevoir ta parole qui a le moyen de nous délivrer, de nous sauver. Parce que ta parole est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle sépare, nous dit les Écritures, jointure et moelle. Elle sépare esprit et âme et elle vient exposer les sentiments et les pensées de nos cœurs. Que ta parole, Seigneur, vienne amener la lumière de la vie qui se trouve en Jésus-Christ et que cette lumière chasse les ténèbres dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs ? Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis persuadé que sa parole va vous bénir. Amen. Si tu peux regarder ton voisin, dis ça va être pour toi ce matin. Psaume 103, verset 2. Psaume 103, verset 2. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Un verset connu de beaucoup, mais j'aimerais que nous puissions réaliser ici, ce verset est un conseil, pas uniquement une adoration du roi David, mais est un conseil pour chacun d'entre nous très pertinent. Ici, le roi David dit, « Oh mon âme, bénis l'Éternel, loue-le, glorifie-le, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ça signifie quoi ? Oublier, c'est quoi ? Oublier, c'est perdre momentanément ou définitivement le souvenir de quelque chose. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est ça, oublier. C'est perdre momentanément ou définitivement le souvenir de quelque chose. Et c'est comme si ici, le roi David est en train de dire, « Oh mon âme, ne perds pas le souvenir des bienfaits de l'Éternel. Oh mon âme, ne perds pas le souvenir des avantages, des bénédictions que l'Éternel désire te manifester ou t'a déjà manifesté. » Donc il est en train de dire, ne perds pas le souvenir de ses bénéfices, si tu préfères. Parce que c'est important pour nous de comprendre que Dieu a des bénéfices et des avantages que nous ne devons pas oublier et encore moins ignorer. Parce que l'oubli est aussi une forme d'ignorance. Quand tu as oublié ou tu as perdu tes clés et tu as besoin de prendre la voiture, eh ben tu es ignorant, tu sais pas où c'est. Et pourtant, tu es sûr d'avoir mis tes clés quelque part. Et quand ton époux te dit, mais tu as mis où ? Je sais pas. Tu as oublié où c'est. Donc, c'est une forme d'ignorance. Mais j'aimerais vous encourager avec le message d'aujourd'hui qui s'intitule des avantages inexploités. Dieu a pour toi et moi des bénéfices, des avantages inexploités qu'on ne connaît pas et pourtant ils sont bien là. Soit parce que on a perdu le souvenir ou soit parce que on ignore l'existence. Il y a une histoire que j'avais déjà racontée il y a quelques années de cela pour illustrer ce principe. C'est un homme qui habitait en Allemagne vers les années 40 et qui voulait aller habiter aux États-Unis et vivre le rêve américain. Et donc, pendant des mois, il met des sous de côté pour prendre le bateau et payer son billet, mais il n'avait pas beaucoup de moyens, donc il met toutes ses économies pour payer le billet, être un passager, avoir une petite chambre dans le bateau et pouvoir vivre la traversée. Et comme il n'avait pas beaucoup de moyens, il met dans un sac quelques petits paquets de biscuits pour chaque jour pouvoir manger un petit bout de biscuit et pouvoir durer des semaines comme ça jusqu'à l'arrivée. Les autres passagers allaient manger à la cantine du bateau. Ils allaient donc profiter des repas offerts dans le bateau. Et à la fin du séjour, au bout de quelques semaines, ils ont fait une fête pour remercier les passagers avant d'arriver sur le territoire américain. Et en arrivant, donc avant d'arriver, ils font cette fête et il y a d'autres passagers qui lui disent « Mais viens, on fait un repas, il y a une fête, pourquoi tu ne viens pas manger avec nous ?» Et là, il répond « Mais je n'avais pas assez d'argent, j'ai juste eu de quoi assez pour payer le ticket du voyage. » Et là, l'autre passager lui dit « Mais sur chaque ticket du voyage, il était compris le repas pour tous les jours. » Et là, le gars a vécu des semaines à manger des biscuits parce qu'il avait payé un billet, mais il était ignorant des bienfaits et des avantages que pouvait procurer ce billet pendant le voyage. Et donc, il n'a mangé que le dernier repas à la fête. Heureusement déjà, tu perds un peu de kilos, le gars. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas compris que le prix qu'il avait payé pour avoir le ticket, dans ce prix, il y avait d'intégrer, de compris, eh ben, les repas, les bienfaits, l'avantage au moins de pouvoir manger. Et cette histoire, en réalité, me fait penser parfois à nous les chrétiens. Jésus a payé le prix, et dans le prix qu'il a payé pour toi et moi, il y a des bienfaits qui, en fin de compte, parfois, on ignore. Et on vit parfois une vie en Christ où on mange des biscuits. Aussi. Parce qu'on ignore les bienfaits que Christ a payés pour nous. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message « Des avantages ou des bienfaits, si tu préfères, inexploités ». Il n'a pas pu bénéficier, cet homme, de cet avantage de pouvoir manger chaque jour à cause de son ignorance. Et encore une fois, la Bible nous dit « n'oublie aucun de ses bienfaits ». Et dans 1 Corinthiens 2, 12, l'apôtre Paul va nous dire la chose suivante. « Or nous », ça parle de qui là ? Dis ça parle de moi. Tu veux dire c'est toi là ? Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Pourquoi le Saint-Esprit nous a été donné ? Pas juste pour prier par l'Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné pour connaître les bienfaits, les avantages qui nous a été accordés par la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a payé le prix. Et du coup, à ce prix, il y a donc compris des bienfaits. Et le Saint-Esprit nous a été donné pour connaître ces bienfaits. Mais parfois, on vit une vie chrétienne où, encore une fois, on mange des biscuits. Soit parce qu'on ignore l'existence des avantages ou des bénéfices qu'on peut avoir accès quelle que soit la saison que nous traversons, ou soit parce qu'on a oublié certains bienfaits, c'est-à-dire profitables, qui nous est accordé dans notre foi en Christ Jésus. Je veux dire, quand un salarié, un employé ou même un employeur a des avantages dans le cadre de ton travail, tu as réellement des bienfaits comme en France, les congés payés. Il y a des pays, il n'y a pas de congés payés. Hein. Ou tu as comme, je ne sais pas, des fois, certains boulots, ils ont les tickets restaurants, ils peuvent acheter des trucs. C'est quand même un avantage intéressant, oui ou non ? C'est un bienfait. Les RTT, ça peut être un bienfait. Certains ont des 13e mois, des 14, des 15, 16. Ils n'existent pas, mais pas grave. Je veux dire, c'est... C'est un treizième, c'est un bienfait. Est-ce que ça, vous pensez, vous, déjà, vous connaissez quelqu'un, vous, qui a dit, franchement, moi j'ai un bienfait, j'ai des congés, mais je préfère pas utiliser mon bienfait. Oh non, c'est des bienfaits que je préfère pas utiliser, et puis les tickets, tout ça, non, je préfère pas utiliser. Non, le 13e mois, non, je préfère travailler 365 jours et j'ai oublié de prendre des congés. Vous avez entendu quelqu'un dire ça, vous? En général, avant que l'année commence. On a déjà calculé les congés, où on part, où on va. On a déjà calculé le nombre d'heures supplémentaires pour le RTT, pour prendre ça dans tel jour. Il y a un jour férié là, je mets ça au milieu. Comme ça, ça fait pas 2 jours, ça fait 4 jours. Alors, tu crois que je ne gagne pas compter ou quoi? Alors, donc, on n'est pas oublié des bienfaits que nous avons, les avantages que nous avons dans certains contrats de travail. Oui ou non? L'alliance avec Jésus-Christ est mieux qu'un contrat. Elle nous donne le Saint-Esprit qui a été envoyé. L'une de ses raisons, on vient de le lire, c'est pour connaître les bienfaits. Et il est bon pour nous de comprendre ça. Un bienfait est un bénéfice, est un avantage. C'est profitable. Et donc, il y a en Jésus-Christ, pour chacun d'entre nous, des avantages inexploités qu'on a, soit qu'on ne connaît pas, ou soit qu'on a perdu le souvenir. Et pourtant, ces bienfaits, Dieu désire que nous puissions les expérimenter. Des bienfaits spirituels qu'il désire que nous puissions les expérimenter dans le naturel. La Bible dit que nous sommes bénis, par exemple, dans Éphésiens 1, de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais quand Dieu dit ça, ce n'est pas pour que ça reste en suspension dans les lieux célestes. C'est pour que toi et moi, nous puissions nous approprier et convertir ces avantages spirituels en un profit naturel. Me suivez-vous? C'est un peu la prière du Notre Père. Lorsque Jésus dit, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans Matthieu 6:10, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça parle que ta réalité invisible, cette réalité du royaume de Dieu qu'on ne voit pas, soit démontrée et se manifeste dans la réalité qu'on voit. Que ta réalité spirituelle se voit dans la réalité naturelle. Amen. C'est le but de la prière du Notre Père. Que ce qu'on ne voit pas avec les yeux visibles se voit par la manifestation de notre foi. C'est dans ce sens, avec les yeux de la foi. Donc on va essayer de voir ensemble comment donc convertir, ou si vous préférez, transformer les réalités spirituelles en réalités naturelles. Parce que le Saint-Esprit veut nous faire connaître les bienfaits que Dieu nous a accordés par sa grâce. Amen. Il y a 2 étapes importantes et essentielles pour pouvoir convertir les bienfaits spirituels en bienfaits naturels. Le premier, c'est qu'il faut d'abord les découvrir, sinon on est ignorant. Le deuxième, c'est qu'il faut apprendre à effectivement les convertir. C'est comme, je prendrai l'exemple, je ne sais pas, de quelqu'un qui est millionnaire en euros en France, il va à Mada, il ne peut pas convertir ses sous. Ça risque d'être compliqué. Quoi qu'ils peuvent prendre les euros quand même. Allez, on va changer, on va inverser. Je veux dire que tu arrives dans un pays, si tu n'as pas la monnaie d'échange, tu ne l'as pas convertie, ça ne marche pas. Et c'est important de comprendre que les réalités spirituelles, il faut, par le moyen de la foi en Christ Jésus, apprendre à les convertir. C'est pour ça que Jésus a dit, quand vous priez, priez de cette manière. Il n'a pas dit juste réciter ça. Il a dit, voilà la manière, voici la méthodologie, voici le template, les méthodes, le schéma de fonctionnement d'une prière. C'est faire en sorte que ce qu'il y a dans le royaume des cieux, la réalité invisible, soit manifeste dans la réalité visible. C'est dans ce sens. Donc, il nous faut d'abord les reconnaître, les découvrir, et ensuite il nous faut apprendre à les extraire. Et déjà pour les découvrir, j'aimerais d'abord nous rappeler à chacun d'entre nous l'existence de cette réalité invisible. Parce que déjà, il faut être pleinement convaincu que la réalité invisible est bien tangible. Et parfois, les enfants de Dieu que nous sommes, on peut l'oublier. Un exemple, les sorciers, eux, l'oublient pas. Ils savent, et ils font tout, ils font des hocus pocus, je ne sais pas comment on dit ça, abracadabra, ce que vous voulez, pour avoir des méthodologies démoniaques, pour faire en sorte qu'une réalité spirituelle néfaste se manifeste dans la réalité naturelle. Vous comprenez ? Mais pour les enfants de Dieu, encore une fois, il y a beaucoup plus de puissance dans la bénédiction que la malédiction. La bénédiction, c'est la lumière. Et la malédiction, c'est les ténèbres. Et il n'y a pas de combat entre la lumière et les ténèbres. Donc, soyons pleinement conscients de l'existence de ce royaume des cieux. Un royaume invisible, mais ô combien réel. Dans Hébreux 11, au verset 3, par exemple, il est écrit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine du monde invisible. » Alors là, déjà, c'est clair que le monde visible tire son origine du monde invisible. 2 Corinthiens 4, 18. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Je veux dire, là, c'est encore très clair. L'apôtre Paul, ici, est en train de dire, lorsqu'on traverse une tempête, lorsqu'il y a des saisons intense d'affliction et d'angoisse, il dit où je tire ma force, ce n'est pas de ce que je vois dans le naturel. Mais je regarde pas avec les yeux naturels, je regarde avec les yeux du cœur. Je ne porte pas mon attention, l'attention de mes pensées sur ce que je vois dans la réalité visible parce qu'elle est temporaire. Mais je fais tous mes efforts, ici nous dit Paul, pour porter l'attention des yeux de mon cœur et de mes pensées sur la réalité invisible qui, elle, demeure éternellement. Donc, il est crucial pour un chrétien de comprendre qu'il y a des avantages invisibles, encore inexploités, que toi et moi, nous avons accès pour ne pas manger des biscuits pendant tout le voyage de la foi. Ce serait un peu dommage. Colossiens 1,16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Donc, il y a encore d'autres versets, j'en ai pris que trois. Mais la parole de Dieu est très claire. Le vent, on ne le voit pas, mais on voit ses effets. La réalité invisible, on ne la voit pas avec l'œil nu, mais on voit ses effets. On ne voit pas les fréquences radio ou télé qui passent dans les airs. Mais quand tu allumes le poste radio, tu sais qu'elles existent et qu'elles sont là. Oui ou non ? Et donc, il est bon pour nous d'abord de rester conscient qu'il y a des avantages invisibles, inexploités, que le Saint-Esprit a pour mission de venir faire connaître aux enfants de Dieu. Amen, aurait été bien. Parce que c'est un avantage. Donc le premier point, on a vu ensemble, c'est de découvrir. Il faut les voir. Parce que si on ignore, eh ben on va manger des biscuits. C'est ça le souci. On va traverser les tempêtes de la vie en gagnant tout le temps un sac le cou, sans pouvoir réellement retirer les bienfaits de la force, de la capacité que Dieu peut nous donner. L'apôtre Paul, par exemple, va donner quelques bienfaits dans Éphésiens 18. Il va dire ceci: « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. » Ici déjà, l'apôtre Paul explique, pour pouvoir profiter de ses bienfaits, il explique qu'il faut qu'on puisse être éclairé, que la lumière vienne. Lorsqu'il dit par exemple qu'il illumine les yeux de votre cœur, c'est pour voir avec les yeux du cœur ce que les yeux naturels ne voient pas. Donc c'est pour découvrir et amener à notre conscience, pas juste à notre intelligence, la lumière de la vérité de sa parole, comme l'espérance qui s'attache à son appel. Comment pourrait-on dire autrement cela ? Ben, le suravenir qui est attaché à ton devenir en Christ Jésus. C'est ça l'espérance qui s'attache à son appel. C'est le sur-futur qui est attaché à ton devenir en Christ Jésus. C'est l'espérance. Dieu dit ici, au travers de l'apôtre Paul, que vous voyez que quand vous me cherchez pour marcher dans mes voies, il y a réellement une espérance certaine, que ça illumine les yeux de votre cœur. La richesse de son glorieux héritage, par exemple, c'est quoi ? C'est que vous voyez les ressources disponibles pour la vie présente et la vie à venir. C'est ça le glorieux héritage. Ça ne parle pas juste le glorieux héritage ici pour après. Ça parle de l'accessibilité aux ressources que Dieu veut mettre à notre disposition. Et c'est ce que Dieu désire. Ici, notre passage, c'est l'infinie grandeur de sa puissance. Il dit que vous voyez l'infinie grandeur de sa puissance. Ça parle de quoi ? La possibilité de taper dans la capacité de Dieu par le moyen de la foi. Ça parle ici que vous voyez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui agit avec force envers nous qui croyons. Ça signifie qu'on puisse voir la possibilité d'extraire de notre relation avec Dieu sa capacité afin que sa capacité devienne notre capacité et que le faible dise « je suis fort ». C'est dans ce sens. Me suivez-vous, frères et sœurs ? Ça parle de, ici, il dit qu'il illumine. Ça parle de, il y a des ressources dans la réalité invisible qui existent déjà. Tu veux la paix ? Elle existe déjà. Tu veux l'espoir ? Elle existe déjà. Il y a déjà des ressources comme la joie. Tu as besoin de justice ? Ça existe déjà. Et ça parle ici de pouvoir extraire. Quand on parle de ressources, on parle de bienfaits spirituels que Dieu désire manifester en nous et au travers de nous. C'est dans ce sens. Si on veut la paix, je peux prêcher sur la paix. Certains qui écoutent vont entendre les versets ou l'enseignement avec l'intelligence. C'est bien. Mais pour que ce qu'on entend devienne lumière, il faut que ça passe de notre intelligence à notre conscience. qu'on reste conscient, que cette vérité soit illuminée. Parce que quand la lumière vient, les ténèbres fuient. C'est-à-dire, je peux prêcher sur la paix. Et certains la recevoir de manière intellectuelle, c'est bien. Mais ils sont peut-être toujours angoissés. Ils ressortent pareil comme ils sont rentrés. Ils disent, oh, voilà un bienfait que j'aurais aimé expérimenter, mais je ne le reçois pas. Alors que d'autres vont l'entendre et vont mixer ce qu'ils entendent avec foi et faire en sorte que ce qu'ils entendent avec leur intelligence puisse s'enraciner, être assimilé dans leur conscience. Et quand la lumière de la paix vient, tu sais que tu sais que tu sais qu'elle est là parce que l'angoisse n'est plus là. C'est tout. Si quelqu'un te dit, j'ai la paix de Dieu, mais franchement, je ne suis pas tranquille. Hein. Bah, pas ici, Adam dit ça ailleurs. Mais si quelqu'un dit ça, mais j'ai vraiment la paix de Dieu, mais franchement, je suis tellement angoissé. C'est que la paix de Dieu, elle est là. Elle n'est pas à lumière. J'ai déjà dit il y a quelque temps de cela. Dieu, il ne parle pas juste français, anglais, chinois, créole. Il parle lumière. Il ne parle pas juste grec ou hébreu. Il parle lumière. L'évangile de Jean commence comme ça. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle, la parole, il y avait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière est où ? Dans la parole. Dieu parle lumière. Le but, c'est d'arriver à réaliser que sa vérité, lorsqu'on la reçoit avec foi, c'est comme si on arrive à extraire de cette vérité la substance et les bienfaits qui nous sont destinés. Si la vérité passe de l'intelligence à la conscience parce qu'on reçoit cette vérité avec foi et du coup cette vérité réellement éclaire et illumine les yeux de nos cœurs, alors quand la lumière arrive, les ténèbres fuient. Et les bénéfices, les bienfaits, les effets, la conséquence de cette lumière, c'est automatiquement cette paix te met au calme. Elle met ton âme au calme. Cette paix te donne la tranquillité. Parce que la parole de Dieu est efficace. Lorsque on la reçoit aussi avec foi, la Bible va dire dans Hébreux, mais la parole de Dieu ne leur a été d'aucune utilité parce qu'ils ne l'ont pas reçue avec foi. Dans le désert. Donc, lorsque je parle de découvrir, je parle de voir les avantages inexploités, pas juste avec l'intelligence, mais avec les yeux du cœur qu'il illumine. Si quelqu'un a la lumière de l'espérance de son appel, eh bien automatiquement, les effets de cette lumière, c'est qu'il n'aura pas peur pour son futur. Cette lumière va être diffusée, c'est comme si il va assimiler cette vérité qui va diffuser les bienfaits dans son être intérieur. Comme tu diffuses du thé dans de l'eau. Et les bienfaits de Dieu sont diffusés comme ça. Mais malheureusement, les malfaits de l'ennemi. C'est-à-dire malheureusement, les mauvaises attaques de l'ennemi. Les attaques de l'ennemi sont diffusées aussi comme ça. On voit les effets. Et j'aimerais t'encourager à comprendre donc qu'il y a des réalités, une ressource déjà disponible dans la réalité invisible du royaume de Dieu. C'est possible. C'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Psaume 36, 10 nous dit « Car auprès de toi est la source de la vie et par ta lumière, nous voyons la lumière. » Il y a un autre passage dans les Écritures, certains d'entre vous peut-être vous l'avez déjà entendu ou lu, c'est « Réveille-toi, ô toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts. » Vous savez, ce passage-là, Il ne parle pas à des gens qui sont endormis physiquement. Il parle à des gens qui sont réveillés physiquement. Et il dit aux gens réveillés physiquement, réveille-toi, toi qui dors. Peut-être me dors pas moi. Parce que c'est dit. Ça parle de quoi? Ça parle ici, quand quelqu'un dort, imaginons des parents sont en train de parler de défis qu'ils ont pour leur foyer et ils attendent que les enfants dorment pour pas que les enfants puissent être affectés par ce qu'ils disent, afin que les enfants ne puissent pas interagir par rapport à la situation que les parents sont en train de dealer avec. Quand les enfants dorment, les parents peuvent parler parce que même s'ils sont présents, ils sont là, il n'y a pas d'interaction. Ils ne peuvent pas participer avec ce qui est en train d'être partagé. Oui ou non? C'est pareil, quand la conscience n'est pas éclairée, elle dort. C'est-à-dire, on est là, on est les enfants de Dieu, on a des bienfaits, mais il n'y a pas aucune interaction possible entre ces bienfaits et nous parce que la conscience est encore endormie. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Il faut découvrir, mais pas découvrir juste comme ça. Découvrir parce que tu sais à un moment donné, les effets sont là. C'est comme je vous le disais quand j'ai déjà partagé ce témoignage, quand ma maman est partie rejoindre le Seigneur Jésus, dans la peine et la douleur, en adorant le Seigneur pour réduire rapidement le témoignage, quand la paix de Dieu est arrivée. Je savais que sa paix était là. C'est quand la lumière vient, les ténèbres fuient. C'est dans ce sens. Et donc, il faut d'abord découvrir. Une fois qu'on a découvert, il faut arriver à extraire, à convertir ce qu'on a découvert, ce qu'on a vu, ce qu'on est conscient maintenant, cette réalité spirituelle, en un profit naturel. C'est le cœur de Dieu pour ses enfants. C'est ce que Dieu désire pour nous. Et on va voir quelques clés pour qu'on puisse amener cette transformation. La première, c'est par la prière et la méditation insistante. C'est persévérante. La Bible dit « prier sans cesse ». La Bible dit dans Josué 1:8, médite ma parole jour et nuit, et c'est qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Ça parle ici d'être constant, chaque jour, dans le désir de connaître Dieu, ses bienfaits, par le Saint-Esprit, par la prière, par la méditation de la parole. C'est comme, je vais essayer d'illustrer ça d'une autre manière. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez vu Karate Kid. Oui ou non? Certains, vous n'avez pas vu un film comique sympa. Karate Kid, il y a une scène dedans où le sensei, le maître, apprend à son disciple des mouvements de karaté. Comment? Avec lustré frotté. Lustré frotté. Le jeune gars arrive pour apprendre un peu de karaté et le sensei lui fait nettoyer la voiture. Et en plus, il s'était nettoyé la voiture une fois. Non! Il nettoie la voiture, illustré, frotté, à répétition de fois pendant plusieurs jours. Et après, à un moment donné, le gars s'énerve. Le disciple dit, je vais m'entraîner. Et le sensei, il fait, waouh! Presque comme ça. Et là, sans réfléchir, le mouvement de illustré, frotté, il le fait en réflexe, instinctif, automatique. C'était bien fait, ça. C'est une blague. Et donc, il le fait de manière automatique, c'est instinctif, parce qu'il a pris du temps à répéter un mouvement. Parce que si le sensei lui faisait « je te mets une baffe » et qu'il réfléchissait, alors, est-ce que j'esquive? Est-ce que j'évite en descendant sur le côté? Est-ce que je cale avec la main droite? Il s'est déjà pris deux baffes. Parce qu'il le faisait répéter le mouvement pour que ce qu'il apprend devienne instinctif, devienne automatique. Quand la parole de Dieu nous dit « prier sans cesse », quand la parole de Dieu nous dit « médite chaque jour ma parole, c'est alors que tu auras du succès », C'est pour qu'une fois que ça passe de l'intelligence à notre conscience, alors on apprend à se discipliner à la piété pour que ça passe de la conscience à l'inconscient. Dans le sens où c'est comme quand tu conduis une voiture. Au départ, il faut mettre l'embrayage, passer la première, passer la deuxième, il y a un piéton qui arrive que tu ne connais pas trop, tu as le gars de l'autocollant avec toi, sinon il n'est pas là, au lieu de freiner, tu accélères pour battre dans le gars. Parce que ce n'est pas encore automatique, tu réfléchis, tu vois le gars, tu vois les pédales, tu vois là, tu as le bouc à côté de toi, tu regardes où tout ça, tu te dis bon, qu'est-ce que je fais? Tu es absorbé par le gars, tu ne sais pas où mettre tes yeux, tu ne sais pas sur quoi appuyer, parce qu'il y a des automatismes qui ne sont pas encore instinctifs. Mais une fois que tu as répété beaucoup le mouvement, tu ne penses même plus, tu vois le gars, tu freines. Oui ou non? Quand par exemple la parole de Dieu te dit, hé, pardonnez-vous réciproquement comme je vous ai pardonné. Et que tu commences à méditer sur le pardon. Tu commences à réaliser que le pardon t'a été accordé par grâce parce que ce Dieu-là, il t'aime. Et même si tu ne mérites pas, il t'a pardonné avec tes défauts, il t'aime. Et tu reçois son pardon. Et la méditation de son pardon fait en sorte que dans ta conscience, cette lumière et ses bienfaits sont diffusés dans ton système. Tu l'assimiles. Et tu l'assimiles tellement que tu restes pardon conscient. Et en étant pardon conscient, cette fois-ci, quand quelqu'un te fait du mal contre toi, automatiquement le mal contre toi ne reproduit pas du mal en toi parce que automatiquement tu sors le bouclier du pardon. Ça devrait être ça. Mais des fois, on ne sort pas le bouclier du pardon. On bat dans le bouclier. Pas encore automatique, les mouvements de pardon, tout ça là, la paix. Je ne connais pas trop ça, il est. Parce qu'il faut bien comprendre, quand la Bible dit « prie sans cesse et médite », c'est parce que, je vous le rappelle, on a déjà vu ensemble. Un des premiers bénéfices et avantages, par exemple, de la prière nous transforme nous. C'est dans ce sens, c'est pas juste. Nous, on utilise la prière pour faire monter nos besoins devant Dieu d'abord. C'est pas l'objectif prioritaire. La Bible dit, pour Jésus, pendant qu'il priait, son visage se transforma devant eux. La parole de Dieu, d'abord, la prière nous édifie, nous. Que tu médites la parole, c'est pour faire en sorte que la méditation de la parole, cette vérité que tu médites, eh ben, elle demeure tellement en toi que cette vérité que tu apprends à méditer, eh ben, cette vérité te libère. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans la notion de demeurer, il y a la notion de temps. Tu ne demeures pas juste un instant. Donc certains manquent de liberté et donc d'effet de certaines vérités parce qu'il manque le temps insistant de méditation et pour dire « Seigneur, c'est compliqué ma situation, mais je viens dans ta présence parce que là, ça me fait mal. Je veux pardonner, j'ai du mal, mais j'ai envie de plutôt claquer parce qu'un tel m'énerve. » Et tu apprends vraiment à dire « Seigneur, aide-moi une fois, deux fois, trois fois. » Et au bout d'un certain temps, tu te rends compte que Dieu a tellement œuvré en toi que le pardon devient automatique. Parce que tu comprends que le pardon libère des bienfaits pour toi-même. Celui qui pardonne s'aime lui-même. Parce que quelqu'un qui ne pardonne pas se fait du mal. La personne qui t'a fait du mal, elle s'en fiche peut-être de ton pardon. Mais si toi, tu ne pardonnes pas, c'est toi qui avales le poison. Tu te tues toi-même à petit feu. Que la personne accepte ou pas ton pardon. Parce que le non-pardon va alimenter la rancœur, la haine. Et ça va te ronger. Attention, encore une fois, pardonner, ça ne veut pas dire faire camarade avec. Tu pardonnes à tes ennemis, mais tu ne dis pas à ton ennemi, « Hé, allons manger tous les jours ensemble. » Je dis, Jésus a dit une baffe, tu tends l'autre joue. Après, tu cours. C'est pas vrai. C'était pas écrit, ça. J'ai rajouté. Donc, c'est dans ce sens, en tout cas. C'est... Quand on parle de prier, de méditer, c'est exactement pour que certains réflexes de bonté deviennent instinctifs. Afin que la nature de Christ soit manifeste au travers de toi. Ça passe de l'intelligence à la conscience, de la conscience à l'inconscient, c'est instinctif. comme lustré frotté. On te donne un coup, tu es capable de parer par le pardon. On te maudit, tu es capable de parer par la bénédiction. Et en fin de compte, tu neutralises la haine que les autres font envers toi parce que en toi, tu tapes toujours dans la capacité de Dieu. Et ce qui se passe en toi ne tardera pas à changer les circonstances autour de toi. Parce qu'on attire en réalité ce qu'on est. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses vous seront données par-dessus. C'est dans ce sens. Vous avez déjà vu des gens qui critiquent, s'attirer? Oui ou non, vous avez déjà vu? Pas ici, mais... Donc il faut bien comprendre ça. Prier par une prière et une méditation insistante. C'est comme par exemple, tu es dans la galère financière ou autre. Et tout le temps, tu es en train de réciter « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. » Mais dès que d'un coup de Dieu, il pleure. Et je comprends que parfois c'est dur. Mais ça signifie que l'Éternel est mon berger, on le récite, mais ça reste là. Tu vois, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, viens là, là. Et que la lumière est là, peut-être que les circonstances n'ont pas changé. Imagine ton compte en banque est en train d'être diminué. Tu trappes ton porte-monnaie, tu dis, viens ici, allons adorer le Seigneur avec moi. Tu dis à ton porte-monnaie, ah, tu veux mon attention, toi? Tu veux mon attention? Eh bien, tu vas venir avec moi et tous les deux nous donnons attention à Jésus. Et là, tu dis, regarde-moi bien, écoute-moi bien, porte-monnaie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Pas compris, pas compris? Et c'est ça que des fois, frères et sœurs, je parle d'insistance de foi. C'est que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est un magnifique verset. Psaume 23, un des plus connus, puissant, pour justement ceux et celles qui expérimentent des galères financières, budgétaires, lorsqu'il y a du manque. Mais ce n'est pas juste pour une récitation intellectuelle. C'est bien de répéter pour lustrer, frotter. Pour que la vérité devienne lumière et que cette lumière te libère des ténèbres, de l'angoisse et de la peur, du manque. Afin que cette lumière te rende confiant en Dieu, qu'il est capable d'être un berger qui va pourvoir, pas uniquement au temps de David, mais dans ton temps à toi. C'est ça la foi aussi. C'est ce que Dieu veut pour nous. Deuxième point, j'allais un peu plus vite. Premier point, prière et méditation persévérante, insistante. Comprenez pourquoi il y a un mécanisme de répétition. C'est pour ça que ceux qui ne répètent pas certaines habitudes de piété restent fragiles souvent après la tempête. Le deuxième point, la sagesse de Dieu. Pour transformer les réalités spirituelles en réalités naturelles, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qu'il nous faut demander à Dieu sa sagesse? Parce que une fois que tu vois, que tu es conscient, automatiquement, à un moment donné, il faut quand même avoir cette sagesse-là, gagner, s'il faut, en compétence. Par exemple, quand j'étais dernièrement à Madagascar, le chauffeur qui me raccompagnait à l'aéroport, j'ai bien aimé son cœur pour Mada Extra. Il m'explique sur pendant au moins 40 minutes de route toutes les ressources qu'il y a à Mada. Franchement, je ne sais pas ce qu'il n'y a pas à Mada en fin de compte. Et il me dit, Mada, on bénit le Japon, on bénit tel... quand je l'écoute, je dis, ben, en fin de compte, il y a des choses qui se passent qui bénissent les autres pays. Et puis, il va conclure en disant, le problème, on a toutes ces richesses, mais ce n'est pas nous qui les exploitons. On est plutôt nous exploités. C'est catastrophique. Et il me dit non, parce que nous, on n'a pas le savoir-faire. Parce qu'il faut bien comprendre, tu trouves du pétrole dans la terre. C'est un bienfait. Tu as découvert. Tu as vu, tu es conscient maintenant. Mais pour transformer le pétrole en essence, il y a tout un process. Il y a toute une méthodologie à acquérir. pour pouvoir mettre ça en place. C'est comme le vent. Il a toujours existé depuis des millénaires. Quand Dieu l'a créé, ça fait des millénaires. Mais pourtant, il y a quelques décennies en arrière, on n'arrivait pas à produire de l'électricité à partir du vent. Ces dernières années, on a inventé les éoliennes. Et du coup, le vent, aujourd'hui, dans certaines régions, est utilisé comme un moyen pour produire de l'électricité. La ressource était là. Elle était inexploitée. Et j'essaye de prendre des exemples naturels pour vous dire que spirituellement, c'est la même chose. Il y a des ressources qui sont là, des avantages inexploités, parce qu'il nous faut la sagesse de Dieu pour nous les approprier et pour les transformer. Et demander à Dieu, Seigneur, comment ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Job 28.1 nous dit par exemple, il existe des lieux d'où l'on extrait l'argent. Il y a des endroits où on affine l'or. On sait comment extraire le fer de la poussière, fondre le minerai pour en tirer le cuivre. On fait reculer les frontières des ténèbres sous terre. On explore les mines. On va chercher les pierres noires dans d'opaques ténèbres. Verset 12. Mais quant à la sagesse, où peut-on la trouver ? Où donc l'intelligence a-t-elle sa demeure ? L'homme ne connaît pas quelle en est la valeur. Elle est introuvable au pays des vivants. Les ténèbres l'affirment, elle n'est pas ici. Et l'océan déclare, elle n'est point chez moi. On ne peut pas l'acquérir avec de l'or massif. On ne peut pas l'acheter en pesant de l'argent. Verset 20. Mais alors, la sagesse, d'où provient-elle ? Et où l'intelligence a-t-elle sa demeure ? Elle se cache aux yeux de tous les êtres vivants. Elle se dissimule à l'œil vif des oiseaux. L'abîme et la mort disent, nous avons seulement entendu parler, car c'est Dieu seul qui sait le chemin qu'elle emprunte. Oui, il en connaît la demeure. Et la Bible dira dans 1 Corinthiens, mais nous prêchons Christ crucifié. Folie pour certains, scandale pour d'autres, mais puissance et sagesse de Dieu pour quiconque croit. On a besoin, à un moment donné, que les bienfaits spirituels, pour les rendre réels dans notre vie, aussi de comprendre qu'il y a un principe important, c'est de dire, Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, pour que mon couple soit plus en paix, on veut ta paix, mais comment on construit des relations fortes ensemble ? C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est pas là, ça, on prie, oui, mais à un moment donné, il y a aussi une dimension de sagesse liée à la parole de Dieu que Dieu désire que nous puissions acquérir. Troisième point pour extraire l'obéissance de la foi. On n'y échappe pas. L'obéissance de la foi, c'est le challenge de chacun d'entre nous. Pourquoi ? Parce que le fil conducteur, ou si tu préfères, la technologie spirituelle pour transformer une réalité spirituelle en réalité naturelle, c'est la volonté de Dieu. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc l'outil de transformation va souvent nous amener à l'obéissance de la foi pour que sa volonté soit faite et que cette technologie spirituelle, parce que sa volonté, transforme des bienfaits spirituel en bienfait naturel. Me suivez-vous ? La Bible dit dans Romains 1, 5, c'est par lui que nous avons reçu la grâce d'exercer le ministère d'apôtre pour conduire en son nom des hommes de toutes les nations à l'obéissance de la foi. En Jésus-Christ et en ce qu'il a accompli. Quatrième point, pour comment faire en sorte pour extraire les bienfaits spirituels en bienfaits naturels, comment recevoir ces avantages et mieux les exploiter pour que ce soit profitable dans la vie terrestre et naturelle. Quatrième point, il faut savoir engager le combat spirituel. Ça, c'est important. Mon frère et ma sœur, écoute bien ceci. Rien de lourd dans l'esprit, de conséquent, va arriver sans combat spirituel. Dieu peut donner des percées par sa grâce et il en donne beaucoup et il aide. Mais certaines victoires vont uniquement se recevoir quand les enfants de Dieu découvrent la réalité importante du combat spirituel. Pourquoi ? Parce que notre adversaire est spirituel. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les autorités spirituelles et les esprits mauvais dans les lieux célestes. Et il faut comprendre, un esprit n'a pas de corps qui se fatigue. Un esprit est borné. C'est pour ça, des fois, quand même, quand on prie pour faire des délivrances, on dit « Sors ! Non, mais reste là, moi ! Sors, mon Dieu ! Non, mais reste là, moi ! » Dans le nom de Jésus, c'est comme si ils vont toujours insister pour nous pourrir la vie. C'est pour ça que la Bible dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais comment on résiste ? Comment on gagne cette persévérance ? Par notre soumission, par l'obéissance de la foi ou par cette obéissance, on arrive à faire en sorte que la capacité de Dieu devienne notre capacité. Parce que la Bible dit que nous participons à sa nature divine, afin que sa force devienne notre force, sa paix notre paix. Et à ce moment-là, son autorité, notre autorité, et en faisant ça, et en persévérant, et en étant endurant par rapport au combat de la foi, à un moment donné, c'est lui qui part. C'est lui qui fuit. C'est lui qui fuit. C'est un peu comme dans le livre de Daniel, où Daniel jeûne pendant 21 jours. Mais la réponse, quand l'archange Gabriel arrive, l'ange Gabriel arrive et lui dit, « Depuis le jour où tu as commencé à prier, j'ai été envoyé. » Mais le prince de Perse, une autorité dans le monde céleste, m'en a empêché. Le problème, c'est que l'autorité du prince de Perse était supérieure à celle de l'ange Gabriel. Il a fallu attendre une autre autorité spirituelle, celle de l'archange Michel, pour lui dire « Sors de là, s'il vous plaît !» Pour que Daniel arrive. Mais il faut bien comprendre, comme je vous disais à l'école biblique hier, Daniel n'avait pas le nom de Jésus. Daniel n'était pas une nouvelle créature. Daniel était obligé d'attendre que Dieu envoie. Il ne pouvait pas interférer lui-même. Mais nous, par le nom de Jésus, on peut. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, mais ce que vous lirez dans les cieux sera lié sur la terre, ce que vous délirez dans les cieux sera délié sur la terre. Daniel n'avait pas ça, parce que nous bénéficions par l'œuvre de rédemption qui se trouve en Jésus-Christ, d'une alliance meilleure et d'une autorité en son nom que lui n'avait pas. Et donc parfois les enfants de Dieu, il faut comprendre qu'il y a une combativité spirituelle, parce que la foi est un combat. L'apôtre Paul a dit « J'ai gardé le bon combat de la foi. » Et c'est ce que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Ça parle ici de persévérance pour faire en sorte qu'au travers du combat spirituel, nous puissions avoir la victoire. Amen. Je parle de victoire sur quoi ? Encore une fois, la victoire sur les esprits impurs et toutes les conditions que ces esprits déploient pour empêcher à ce que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies. Me suivez-vous ? C'est-à-dire une combativité spirituelle contre cette réalité spirituelle qui, elle, va déployer tout un arsenal de mensonges, d'oppression, de rejet, de trahison, de jalousie, de ce que tu veux pour pouvoir te disqualifier et t'empêcher de faire la volonté de Dieu. Et comme ces esprits sont réellement bornés, têtus, on a besoin de l'endurance, du combat spirituel pour briser certaines chaînes. Et afin que de transformer certaines réalités spirituelles en réalités naturelles. Parce que, comme je disais aussi dernièrement à la prière, mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais que tu sais que tu sais que Dieu le Père t'aime énormément ? J'ai redire. Est-ce que tu sais que tu sais que tu sais que Dieu le Père t'aime énormément ? Il nous aime tellement qu'il ne nous a pas laissés impuissants face à cette adversité. Il a dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Mais nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Il ne nous a pas laissés sans défense. Il ne nous a pas laissés démunis. Aujourd'hui, c'est possible de réellement tout faire avec la persévérance dans la méditation de la parole de Dieu, lustrée et frottée, en cherchant la sagesse de Dieu, en cherchant réellement également à faire sa volonté pour notre vie et en cherchant également à comprendre les bénéfices de s'engager dans le combat spirituel afin de découvrir toi-même l'autorité que le nom de Christ peut avoir comme portée dans ta vie. Ça, ce sont des indicateurs et des éléments, des principes spirituels qui contribuent et nous aident à transformer, ou si tu préfères, convertir des bienfaits spirituels en bienfaits naturels. Parce que mon frère et ma sœur, il y a pour toi et moi, en réserve dans les cieux, des avantages inexploités. Que Dieu t'appelle et t'invite à aller chercher. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.